France Musique.
Musique et moi.
Sylvie Vauclair.
Priscille Lafitte. France Musique.
Les mauvais musiciens n'entendent pas ce qu'ils jouent. Les médiocres pourraient l'entendre, mais ils n'écoutent pas. Les musiciens moyens entendent ce qu'ils ont joué. Seuls les bons musiciens entendent ce qu'ils vont jouer.
Thank you.
Ce matin va ouvrir grand nos horizons, crever le plafond de ce studio et nous emmener droit vers les étoiles, les galaxies, l'immensité de l'univers à l'écoute du cosmos. Bienvenue à vous, Sylvie Vauclair, dans Musique et moi.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes astrophysicienne à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Vous êtes professeure émérite à l'Université de Toulouse. Et dans vos ouvrages, Sylvie Vauclair, vous vous intéressez à la musique des sphères, à la chanson du soleil. Et pour vous suivre dans vos dernières réflexions, il faut lire la nouvelle symphonie des étoiles qui est parue chez Odile Jacob. Nous avons donc débuté au tempo Allegro molto vivace, le final du deuxième concerto pour violon de Mendelssohn sous l'archet de Nemanja Radulovic, et qui, pour faire écho à la citation de départ, est un musicien qui entend par avance ce qu'il va jouer. Il semble toujours avoir un coup d'avance, Nemanja Radulovic, quand il joue un tour à nous jouer. Quelque chose de tellement malicieux dans son jeu. Est-ce que vous êtes musicienne aussi,
Sylvie? Ah oui, je suis musicienne. Je ne joue plus d'instruments. Disons que j'ai joué du piano et puis un peu de flûte traversière quand j'étais jeune. Mais je me focalise beaucoup sur le chant. Le chant est pour moi très important, donc je chante dans un ensemble vocal à contretemps à Toulouse. Et puis je prends beaucoup de cours de chant régulièrement et je travaille la voix moi-même et aussi en petit quatuor avec des amis.
Alors d'où vient cette citation que vous avez
Alors cette citation, c'est une citation d'Edgar Willems. Alors Edgar Willems était à la fois musicien, poète et très proche de la relation, philosophe aussi, très proche de la relation entre la musique et l'art en général et l'être humain. Pour lui, ça faisait vraiment partie de l'être humain. Et il a beaucoup travaillé là-dessus. Il est devenu à un moment professeur au Conservatoire de Genève. Je crois qu'il était belge d'origine. Et il a eu un élève qui s'appelait Jacques Chapuis, qui est décédé maintenant. Et Jacques Chapuis avait monté l'Association internationale d'éducation musicale Willems. J'ai suivi des cours pendant 6 ans. Six ans jusqu'à obtenir le diplôme pédagogique. C'est très, très, très intéressant.
Intéressant pour le rapport au corps.
Intéressant parce que, oui, intéressant. En fait, ces cours étaient à destination de tout le monde, mais beaucoup de gens qui étaient déjà des profs de musique et qui avaient suivi des cours au conservatoire ou dans des écoles de musique beaucoup plus traditionnelles. Et ça permettait une ouverture. Alors moi, je l'ai pris comme une ouverture par rapport à moi-même, mon corps, mon état d'esprit, enfin, tout ce que je suis. Mais c'était beaucoup aussi à destination pédagogique pour des gens qui allaient enseigner la musique à des enfants, pour faire commencer la musique aux enfants sur un, comment dire, dans une voie qui les passionne et dans une voie qui correspond vraiment à leur propre corps. Alors je pourrais en parler pendant des heures, mais ça a été extrêmement important pour moi. Et ça fait longtemps, hein, ce diplôme, je l'ai passé dans les années 1990, mais encore maintenant, j'y pense beaucoup.
Alors nous allons palpiter ce matin au rythme des vibrations des étoiles, car oui, les étoiles vibrent, elles tintent. C'est une des découvertes d'astrophysique que vous allez nous expliquer. La curiosité à la fois pour la voûte stellaire et pour l'harmonie musicale se sont répondues dans l'histoire depuis l'Antiquité grecque. Et elles se répondent aussi, ces curiosités-là, dans votre vie, et ce depuis l'enfance, Sylvie Vauclair.
Thank you.
Où sommes-nous, Sylvie Vauclair ?
Nous sommes au planétarium du Palais de la Découverte. Il y a pas mal de dizaines d'années, quand j'étais petite, ma mère m'y emmenait, je pense, dès l'âge de 7 ans. Et c'était cet ancien planétarium qui était d'ailleurs dans le hall du Palais de la Découverte à l'époque. On entrait dans le Palais de la Découverte, on était face à l'entrée du planétarium. Maintenant, il était placé. Et c'était vraiment fabuleux. Moi, j'étais très émue à chaque fois parce que, bon, il y avait un animateur qui montrait les étoiles la nuit, enfin, qui était évidemment sur la coupole du planétarium. Et quand il avait fini sa démonstration, à la fin, on voyait le soleil se lever et sur la musique de l'ouverture de Tannhäuser de Wagner. Et je sais pas, cette musique, vous imaginez le soleil qui se lève. Je pense pas que Wagner l'ait composé pour ça, mais franchement, ça va tellement bien. Pam, 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 pam. Vous imaginez le soleil qui se lève. C'était fabuleux. Et j'ai découvert, je crois, la musique classique et l'astronomie en même temps. Et je suis pas la seule, parce que j'ai rencontré des collègues, des gens déjà assez âgés, qui eux aussi ont vécu ce planétarium du Palais de la Découverte quand ils étaient petits.
Alors là, on entendait la version de l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, dirigée par Andris Nelson. Mais qui vous amène, Sylvie Vauclair, au planétarium ? Vous vous souvenez ? C'est vos parents qui avaient
Ma mère. C'est ma mère, oui. Non, mon père, il n'était pas du tout là-dedans, mais ma mère était passionnée par les étoiles.
C'était pas son métier ? Si ?
Elle est institutrice.
D'accord.
Elle est institutrice, mais elle aimait beaucoup regarder le ciel. Je crois qu'elle était passionnée par l'infini, déjà.
Elle vous a transmis
ça. Oui, elle m'a transmis cette passion-là. Et puis, elle s'intéressait beaucoup à la mythologie grecque. Et vous savez que les constellations dans le ciel, beaucoup de constellations, pas toutes, ont des noms de personnages de la mythologie grecque. Donc, elle sortait la nuit, elle expliquait ça aux gens, elle faisait des petites séances. Et voilà, elle aimait beaucoup aller au planétarium, elle m'emmenait là. Et puis la nuit aussi, elle me faisait lever pour aller voir les étoiles la nuit. Et ça, j'étais petite, j'avais peut-être 5 ans. Et on se levait à 2h du matin pour aller voir une étoile. Et puis après, on retournait se coucher. Ça, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Et elle n'était pas scientifique du tout. Donc ça, c'est venu après pour moi, l'aspect scientifique. Ouais. Mais je pense que c'est important l'ouverture qu'on donne aux enfants dans leur toute petite enfance.
Vous vous souvenez donc du ciel de votre enfance ?
Le ciel de mon enfance, oui, et l'endroit, parce qu'on allait, quand on allait, bon, dans la région parisienne évidemment, mais en vacances, on était dans la campagne entre Chartres et Dreux, en Beauce.
On pouvait voir davantage les étoiles.
C'est-à-dire que la Beauce, vous savez, c'est un immense plateau qui s'étend, enfin, on a l'impression que ça s'étend jusqu'à l'infini. Et donc, on pouvait très très bien voir le ciel, puis il n'y avait pas la pollution lumineuse qu'il y a maintenant. Et puis, il n'y avait pas non plus, c'est un petit peu abîmé maintenant, beaucoup d'endroits. Oui.
Est-ce que vous vous souvenez des nuits de pleine lune ? Est-ce que vous vous souvenez des orages d'été ? Et avait-il le même retentissement qu'à l'époque de Vivaldi ?
Thank you.
C'est une version enregistrée par Fabio Biondi, à la tête de l'ensemble Europa Galante. Sylvie Vauclair, vous nous disiez un peu plus tôt que la découverte de l'astronomie et l'ouverture à la musique classique sont allées de pair dans votre vie dès l'enfance. Est-ce que vous aviez déjà un intérêt pour l'aspect physique de la musique, pour son onde sonore, pour ses vibrations? À quel moment c'est venu?
Alors ça c'est venu quand même beaucoup plus tard, peut-être à la suite de mes cours Willems, où j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la structure de la musique, à la signification des ondes sonores pour le corps humain.
Et mais dans l'enfance, comment est venu est-ce qu'il y a des instruments de musique qui sont arrivés sous vos mains?
Je jouais du piano. Ouais. Je jouais du piano et puis j'avais la chance, alors ça c'est vraiment une chance parce que j'ai envie de dire, j'y suis pour rien, hein, c'est de naissance, j'avais la chance d'avoir l'oreille absolue. Et ça c'est amusant parce que mon professeur de piano et mes parents l'ont découvert très très tôt. Alors ils jouaient des notes sur le piano, je disais ce que c'était en tournant le dos. Alors du coup ils me prenaient un petit peu comme un animal savant, on montrait ça aux voisins. Et d'ailleurs, c'est bien et c'est pas bien. Parce que c'est bien d'une certaine manière, mais d'un autre côté, ça veut dire à l'époque, moi j'entendais, quand j'entendais de la musique, j'entendais les notes, je me chantais moi-même les notes les unes après les autres, quoi. Et je n'avais pas, et ça c'est important, j'ai envie de dire ça, parce que je crois que ça peut être assez général. C'est que, ayant cette relation, j'ai presque envie de dire un petit peu scientifique à la musique, je n'avais pas assez cette sensibilité, cette sensorialité, par exemple la sensorialité des intervalles. J'ai appris tout ça, j'ai presque pendant un moment essayé d'oublier, de mettre en arrière cette oreille absolue qui me gênait pour apprendre la sensorialité des intervalles avec ces cours Edgar Willems. Et c'est ça, j'ai vraiment appris toute cette sensibilité. Je manquais de sensibilité dans l'enfance. Bon, j'étais sensible à l'ouverture de Tannhauser, oui, mais quand je jouais du piano, c'était des notes à côté des autres.
Oui.
Et donc, il y a eu toute une évolution et un travail sur moi-même à ce sujet pendant de très nombreuses années.
C'est une version de Philippe Hervègue à la tête de l'orchestre des Champs-Élysées, du chœur La Chapelle Royale et Collège Vocal de Gand, dans cette Meistermusik Köchel 477 de Mozart. Donc une version pour chœur d'homme et orchestre, qui est donc la version originale, je crois, prévue par Mozart en 1784 pour cette musique de maîtrise, cette musique maçonnique. À quoi est-ce qu'elle est reliée?
Écoutez, moi je suis très émue d'entendre cette version. Pour moi, c'est un vrai petit bijou, cette œuvre de Mozart. Je crois que c'est ce que je préfère de toutes les œuvres de Mozart. Et il se trouve que une époque, il y a 20-25 ans, je l'écoutais en boucle en écrivant. J'écrivais des livres en écoutant cette musique. Et c'était cette interprétation-là de Philippe Hervègue, où la basse continue, enfin c'est un chœur d'homme. Et ensuite, malheureusement, j'ai perdu mon CD, et j'ai recherché partout, et je cherche sur YouTube, je cherche chez des disquaires, je cherche partout, et c'est toujours joué avec des instruments. Alors je suis tellement contente de l'entendre aujourd'hui à nouveau avec ses chœurs d'hommes et d'apprendre, parce que je ne savais pas que c'est la version originale de Mozart, parce que comme on l'entend toujours avec les instruments, moi je me demandais si Philippe Hervègue avait rajouté quelque chose, des paroles, mais vous me dites que c'est la version, voulu par Mozart d'avoir un chœur d'homme. Alors, j'aimerais bien que des gens maintenant, des orchestres jouent à nouveau cette magnifique petite musique avec à nouveau le chœur d'homme qui est extraordinaire.
Oui. Est-ce qu'on peut revenir quand même à l'enfant que vous étiez, Sylvie Vauclair, à l'écoute ou à la découverte de ces étoiles? Est-ce que vous vous souvenez
des
premières questions fondamentales que vous posiez?
C'était aussi l'époque où il y avait les premières, le début de la conquête spatiale aussi, où il y avait eu les premiers satellites. Et donc c'était une ouverture vraiment sur l'espace, sur la Terre. En fait, je pense que c'était toujours, disons que je m'intéressais pas aux étoiles pour les étoiles, toute seule, mais que je m'intéressais à l'ensemble des étoiles pour essayer, déjà à l'époque, je crois, depuis toujours, de mieux comprendre ce que ça signifiait, ou de mieux intégrer, de mieux me pénétrer, si vous voulez, du fait que nous sommes sur une petite planète qui vogue dans l'espace autour d'une étoile, et qu'est-ce que ça signifiait tout ça.
Donc, ce vertige,
je me suis
là
toujours intéressée. Ouais. Oui, et il y avait du vertige, en fait. Je me souviens très bien de mon vertige, justement, quand j'allais la nuit regarder les étoiles avec ma mère. C'était à la fois exaltant et à la fois ça faisait un peu peur. Mais qu'est-ce que je suis là, face à ces étoiles qui sont si loin? Je commençais à comprendre un petit peu tout ça. Et je pense que c'est ça qui m'a toujours menée, parce qu'évidemment après j'ai fait des études scientifiques, après on fait beaucoup de calculs, vous savez le travail qu'on fait, le travail journalier d'un astrophysicien, c'est pas de regarder
tourner
le ciel,
vers la table.
C'est pas du tout de regarder le ciel, contrairement à ce que la plupart des gens imaginent, mais c'est de travailler avec un ordinateur, et voilà, donc c'est autre chose. Mais quand même, ce qui m'a porté à aimer ce métier, avoir envie de continuer, et de le, pas seulement de continuer, mais aussi de le, parce que comme j'ai été enseignante pendant très longtemps, et je continue à donner des conférences, donc de le partager, très important de le partager. Ouais. Je crois que c'est ça, je crois que c'est très lié aussi à la philosophie, et l'art y participe beaucoup aussi d'ailleurs. Hein. Qui sommes-nous, que faisons-nous ici?
Oui. Et vous chantez aussi.
Et je n'ai pas de réponse, bien sûr, mais c'est une recherche. Et le chant, oui, bien sûr, parce que le chant, moi je trouve que le corps humain, c'est le plus extraordinaire instrument de musique, quand on peut bien le faire travailler.
Oh,
Nous voici face à notre propre finitude, dans ces écumes de Verdi qui rend avec éclat nos rêves de grandeur, puis notre mortalité. Il apaise aussi, nous rend tout petits, un peu ce vertige dont vous nous parliez un peu plus tôt.
Oui, tout à fait. En fait, il se trouve que j'écoutais en boucle ce Dies Irae du Requiem de Verdi à une époque où j'avais eu un petit souci, j'avais un petit problème de santé, une opération, et j'avais un peu mal. Et c'est extraordinaire d'écouter ce Dies Irae du Requiem de Verdi, ça m'aidait à ne plus avoir mal. Et il se trouve que quelques années plus tard, eh bien, j'ai eu la chance que notre ensemble vocal choisissent de chanter ce requiem.
Donc j'étais donc vous l'avez pour moi vécu c'était
extraordinaire. Donc j'ai vécu dans mon corps ce Dies Irae et c'est vrai que je sais pas quoi dire quoi. Je veux dire ça parle tout seul, on se sent vraiment transporté quoi, c'est extraordinaire quand même.
C'est avec ce type d'expérience Sylvie Vauclair que vous êtes amené aussi à réfléchir sur ces vibrations que nous ressentons dans notre corps lorsque nous chantons et qui s'installent à des endroits différents du corps. C'est bien ça ?
Ah, tout à fait, c'est-à-dire que le corps vibre d'une manière générale, mais suivant la fréquence. Si vous entendez ou si vous chantez une note à une certaine fréquence, votre corps vibre à un endroit différent. Et ça, c'est normal, parce que les fréquences aiguës, ça veut dire des longueurs d'onde petites, ça veut dire que vous vibrez près de votre tête, si vous voulez, ce qui vous empêche pas de vibrer le corps entier. Mais enfin, alors que les basses, vous savez bien, quand on est avec ces basses, comme on fait maintenant, là, quand on vous est à côté d'une grosse enceinte dans une discothèque, par exemple, vous vibrez du haut en bas. Et puis, si vous êtes en voiture, ça me fera beaucoup, vous êtes en voiture, vous avez quelqu'un, les toutes vitres fermées dans la voiture d'un côté, qui écoute de la musique, vous entendez que les basses. Ça nous fait vibrer tout entier. C'est fabuleux et je crois que ça peut, comment dire, ça peut faire du bien aussi à certaines parties du corps, ouais. Enfin, quand on sait travailler dessus.
Alors, je vous pose la question parce que je crois que ces longueurs d'onde que nous percevons, nous, dans notre corps, est-ce qu'elles sont, on peut faire un parallèle avec les longueurs d'onde qui sont perçus grâce à du matériel, du ciel.
Oui, alors il y a une chose à dire en préalable qui est très importante, c'est qu'il n'y a pas de son qui se propage dans l'espace. Il faut bien avoir conscience de ça. Donc il y a du son à certains
endroits.
C'est le
vide, donc il faut du gaz.
Du gaz ou du matériau. Ouais. Hein, le son se propage aussi dans les solides, aussi dans le liquide, d'une manière différente de la propagation dans l'air, mais il faut de la matière. Ouais. Et entre les étoiles et nous, de la matière, il y en a, mais c'est quasiment pas quoi. C'est-à-dire que c'est plus vide que le vide le plus poussé que vous pouvez avoir sur la Terre. Donc il n'y a pas de son qui se propage entre les étoiles et nous. Il y a du son qui se propage à l'intérieur des étoiles. Pas toutes d'ailleurs. Mais le Soleil, oui, par exemple, et puis d'autres, on va le voir tout à l'heure. Ce sont comme des caisses de résonance, des ondes sonores qui se propagent à l'intérieur de l'étoile, qui font vibrer les régions superficielles de l'espace. Pardon, les régions superficielles de l'étoile, excusez-moi pour le lapsus, mais qui n'en sortent pas. Alors ceci dit, on les reçoit et on les reçoit aussi, enfin on les reçoit sous forme ce qu'on appelle électromagnétique. Vous savez, comme les ondes que vous avez quand vous parlez à quelqu'un avec votre téléphone portable, c'est pas la voix qui est transportée jusqu'au téléphone portable de l'autre, c'est transformé en ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques. Bon, ça passe par des câbles ou ça passe, enfin peu importe,
ou la radio,
mais la radio. Et donc c'est ce genre de choses qu'on reçoit de l'espace. Mais notre corps réagit aussi en tant qu'antenne, hein, aux ondes électromagnétiques. Donc c'est pas complètement prouvé, mais moi je pense qu'on a une sensibilité, alors une sensibilité, attention, pas scientifique, pas directe, mais une certaine sensibilité justement à ces fréquences qui nous arrivent de l'espace. Je crois que c'est tout à fait possible.
Thank you.
Sylvie Vauclair, à quoi est-ce que nous pouvons comparer les vibrations acoustiques de ces étoiles? Racontez-nous un petit peu. Est-ce qu'on peut comparer ces vibrations à des instruments à cordes? On vient d'entendre un violoncelle, un violon et un pianoforte. C'est Andreas Steyer au pianoforte, Daniel Sepako au violon et Roel Dietens au violoncelle dans ce trio de Schubert. Est-ce que c'est comparable à un instrument à cordes?
Oui, je pourrais dire déjà quand même que ce trio de Schubert, pour moi, c'est absolument extraordinaire et que j'ai vécu une expérience particulière avec ça, avec l'impression de transfert. Un jour, je me sentais pas très bien, vous savez, la première fois que ça m'est arrivé de me sentir comme si j'étais la musique, vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, les étoiles, ce sont des sphères. Ce sont des sphères et les violons, ce sont des cordes, des instruments à cordes, ce sont les cordes qui font les notes, ce sont les cordes qui font les vibrations. Mais là où il y a quelque chose qui se ressemble, quelque chose en parallèle, c'est la caisse de résonance. Donc la caisse de résonance pour le violon, c'est la boîte, c'est que construit le luthier et qui doit être extrêmement bien fabriqué, extrêmement précis pour avoir des bonnes résonances, pour avoir un joli timbre. Oui. Hein, le timbre du violon dépend essentiellement pas de la corde. Hein, c'est la corde qui fait la note, mais le timbre dépend de la caisse de résonance.
Mais alors, qu'est-ce qui fait vibrer les étoiles?
Les étoiles sont des caisses de résonance, donc des grosses sphères.
Ce sont plutôt des cloches alors.
Ce sont des sphères. Alors évidemment, c'est difficile d'avoir des sphères résonantes. Ça existe, hein. Ça existe. Il y a des gens qui font des sortes de, bon, je peux pas appeler ça des instruments, mais des sphères résonantes, quoi, en métal ou quelque chose comme ça. Donc là, ça se rapproche un petit peu. Sauf qu'une étoile n'a pas de paroi. Une étoile, c'est ce qu'on appelle une sphère autogravitante. Une sphère autogravitante, ça veut dire que il y a suffisamment de matière. C'est très gros une étoile, hein. Je veux pas dire la masse, c'est pas la peine, mais c'est beaucoup de matière qui tient tout seul sous l'effet de son propre poids. C'est-à-dire que la matière qui est dans les régions externes, elle s'en va pas. Comme nous, en fait, hein, c'est facile. Nous, on est sur la Terre, là, on s'en va pas dans le ciel, parce qu'on est retenu par notre propre poids. Eh bien, c'est comme ça dans les étoiles, avec c'est du gaz, mais qui tient. Donc, ça fait comme une sphère, mais sans paroi. Ceci dit, là, c'est très dense à l'intérieur, et ça devient de moins en moins dense, et il y a un moment où ça fait comme s'il y avait une limite, alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est quand même, c'est important pour le son. Parce que vous me posiez la question, qu'est-ce qui fait vibrer? Alors, il y a plusieurs raisons, hein, suivant les étoiles, parce qu'il faut dire quand même qu'il y a toutes sortes d'étoiles. Il y a énormément d'étoiles, on voit des étoiles de toutes les dimensions, de tous les âges, de pas toutes les compositions, mais des compositions aussi un peu différentes les unes des autres. Et la signature sonore, toutes les étoiles n'ont pas de signature sonore, hein, il faut dire quand même, mais beaucoup. Et la signature sonore des étoiles dépend de tout ça. Donc chaque étoile a une signature sonore qui lui est propre.
Mais il n'y en a pas deux qui ont la même signature. Parce qu'un instrument de musique,
alors ceux qui mettent en vibration, voilà, je vais vous parler de ça pour le soleil, parce que c'est pas forcément la même chose pour d'autres étoiles. Mais les étoiles comme le soleil, ben voilà. Elles ont, le soleil a 700 000 km de rayon. C'est une très grosse sphère. Et alors là, faut que je fasse un petit peu d'astronomie, un petit peu d'astrophysique.
Allez-y, on va essayer de vous suivre.
L'énergie solaire, c'est-à-dire le rayonnement qu'on reçoit du soleil, provient de réactions nucléaires qui ont lieu au centre. Donc au centre, vous avez de l'hydrogène qui se transforme en hélium, ça fournit de l'énergie. Et cette énergie est transférée très lentement depuis le centre du soleil jusqu'aux régions extérieures. Elle se transforme, cette énergie aussi, et aux régions extérieures, dans les régions extérieures, ça s'en va et c'est notre énergie solaire. Ce transport d'énergie, sur les premiers deux tiers du rayon, ça se fait par le transport du rayonnement comme ça, mais le dernier tiers est convectif. Alors convectif, ça veut dire qu'il y a des mouvements de matière, voilà, comme dans les convecteurs qui produisent des mouvements de matière dans l'air au-dessus, voyez. Et ces mouvements de matière, c'est un petit peu comme de l'eau qui boue, sauf que l'eau c'est du liquide, et là c'est pas du liquide, c'est du gaz. C'est un petit peu comme de l'eau qui boue, et l'eau qui boue ça fait du bruit. Donc en fait, ces mouvements de matière font du bruit. Vous avez donc du bruit, toutes sortes d'ondes qui se propagent à l'intérieur de l'étoile, et c'est là que intervient la caisse de résonance. C'est que l'étoile, avec sa composition, sa température et tout ça, va faire résonner certaines fréquences et pas d'autres. Exactement comme dans la caisse de résonance du violon, vous avez certaines harmoniques qui résonnent et pas d'autres et qui font le timbre. Donc l'étoile fait pareil. Donc elle a cette énergie qui vient de l'intérieur, qui fait résonner, et elle résonne selon son propre timbre.
qu'on va écouter un tout petit peu plus tard. Mais on réserve le suspense. On va d'abord rester avec Monteverdi. C'est un madrigal tiré du quatrième livre de Claudio Monteverdi. C'est un enregistrement à France Musique dans l'émission Génération France Musique le Live. Nous venons d'entendre la main harmonique dirigée par Frédéric Bétous.
France Musique.
Priscille Lafitte. Musique et moi.
L'astrophysicienne Sylvie Vauclair est l'invitée de Musique et moi ce matin et nous venons d'entendre un chant aux étoiles. C'est le chant d'un malade d'amour qui confie ses tourments aux stellés, aux lumières stellaires. Vous l'avez chanté,
je regardais comme un stellé. Oui, 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 au cours d'un stage. Monteverdi en Arbois, oui.
Est-ce que vous vous êtes demandé, Sylvie Vauclair, ce que voyaient et percevaient les humains au début du XVIIe siècle, alors que Galilée, lui, acquiert la certitude que la Terre tourne autour du Soleil et pose les fondements de l'héliocentrisme. On se tournait vers les étoiles pour
oui,
l'amour, pour
Galilée,
d'autres choses.
Galilée avait posé toutes ses bases, mais il a été obligé de se
rétracter. Dédire,
ouais. Il a obligé de se dédire parce que la société avait du mal à accepter tout ça. La société, je pense pas seulement la religion, hein, toute la société. Ce qui est intéressant, c'est que Galilée s'est rétracté. Il a dit non, ce que j'ai dit. Enfin, je sais pas ce qu'il a dit exactement, mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'a rien changé. Galilée avait des disciples et les disciples ont continué et tout ça a continué. L'évolution des connaissances se fait malgré les sociétés. Et moi, je suis convaincue que l'évolution en art, parce que je pense qu'il y a une évolution en art, Il y a une évolution qui a sa voie propre, mais qui va en parallèle, et pas seulement en parallèle, en connexion avec des échanges, avec l'évolution des connaissances à l'époque.
Alors, parce à l'époque montévérienne, les musiciens étaient souvent férus d'astronomie aussi.
Oui,
enfin,
mais
ça allait de pair, mathématiciens.
C'était, je pense, l'astronomie du passé, c'est-à-dire les constellations, l'aspect mythologique éventuellement, le rêve.
La
position des objets célestes qu'on revoyait tous les soirs avec un petit retard, etc. Ce qui a changé après, c'est avec aussi l'évolution de la physique. Tout ça, c'est connecté. Tout est connecté, en fait. C'est l'étude de la structure et de l'évolution des objets célestes. Qu'est-ce qu'ils sont ? D'abord, déterminer leur distance aussi, par rapport à nous. Et savoir ce qu'ils sont, ça nous replace, nous, d'une autre manière. C'est-à-dire que ce n'est plus les étoiles sur une voûte autour de nous et qui sont là pour nous. Non, c'est plus ça. C'est en fait, nous sommes sur une planète autour d'une étoile et nous faisons partie de tout ça. Mais c'est pas fait pour nous. Nous en faisons partie et nous le découvrons petit à petit. Ça change les bases. Et je pense qu'à l'époque de Monteverdi, malgré l'évolution des connaissances, on n'en était pas encore là. Et je veux dire, pour la compréhension générale, c'était le rêve. C'était le rêve, l'amour, comme vous disiez, tout à fait.
Est-ce que
on peut encore parler des étoiles pour le rêve et l'amour, hein.
Oui.
C'est pas parce qu'on a des connaissances scientifiques plus importantes.
Est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler d'où on part? C'est-à-dire que dans l'Antiquité, on était persuadé que les planètes étaient reliées à la musique.
C'est-à-dire que dans l'Antiquité, alors là c'est un petit peu long, je vais aller assez vite, mais à l'époque de Pythagore, j'ai raconté ça en fait dans un autre livre qui est la Nouvelle Musique des Sphères. À l'époque de Pythagore, donc il y a eu à la fois la découverte des harmoniques d'une corde hein, en musique, ce qui a donné lieu à la gamme de sept notes, hein, sept notes de musique. Et puis, à l'époque, on pensait que la Terre était fixe au centre du monde et qu'il y avait sept planètes qui tournaient autour de la Terre. Les sept planètes, parce qu'il y avait cinq planètes, qui sont celles qu'on voit à l'œil nu facilement, plus le Soleil et la Lune, qui étaient considérées aussi comme des planètes, même un petit peu différentes des autres. Donc, sept planètes, sept notes de musique, ben, c'était facile de se dire, on va les associer. Et c'était la musique des sphères de l'Antiquité, qui était totalement symbolique. Et donc après, tout ça a été remis en cause, mais la connexion, évidemment, entre musique et astronomie est restée. Elle a évolué.
Oui.
Elle a évolué. Et en fait, tout évolue, et c'est très important, l'évolution. Mais là, justement, la relation art et science évolue aussi, et c'est vraiment passionnant.
Et qu'on peut lire, effectivement, dans votre livre, La Nouvelle Symphonie des Étoiles. Il y a tout au long de l'histoire de la musique, des odes à la nuit, aux étoiles, et puis il y a le chant de l'étoile de l'Orient, Nkassou.
La Habibi. يا حبيبي الليل والسماء ونجومه وقمره صغره وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا حب سوا ولا غاوة أغم منه ولا غاوة إلا غاوة أغم منه ولا غاوة أغم منه ولا غاوة أغم منه الهوى سهران الهوى يسقينا الهنا
I'm
Oh mon amour, voici la nuit, le ciel et ses étoiles, la lune et ses veillées. Demandons au soleil, lève-toi dans un an et pas avant un an. C'est la poésie de Marcy Gamel Aziz avec la voix d'Oum Kalsoum en 1969 au Caire. D'ailleurs en Égypte, il y a toute une rhétorique amoureuse qui est calquée sur le monde stellaire. Quand on qualifie quelqu'un de lune, de Amar, ça, c'est synonyme de beauté radieuse. C'est un compliment en Égypte d'être une lune.
Vous avez... C'est vrai que les Arabes sont très proches du ciel et l'ont toujours été. Il y a une époque où, quand chez nous, au Moyen-Âge, on était un petit peu, comment dire, en retrait, et les Arabes étaient très, très florissants par rapport à tout ce qui touche le ciel.
Très férus d'astronomie.
Oui.
Vous nous avez expliqué rapidement que, une fois que Pythagore avait cherché à relier les sons, les notes aux planètes, on s'est rendu compte que l'espace est vide et donc vide de son. À quel moment est-ce que on a réussi à percevoir ces vibrations d'étoiles dont vous nous parliez un peu plus tôt?
Alors l'histoire de Pythagore et des planètes, c'est intéressant parce que ces sons des planètes, déjà à l'époque, donc on pensait que les planètes émettaient des sons, mais on les entendait pas. Alors j'ai essayé de comprendre comment c'était possible, comment les gens l'interprétaient ça. Et alors c'était l'idée, c'est ce que j'ai trouvé, sous toute réserve, on est baigné dans ce son depuis qu'on est tout petit, et c'est comme quand on habite à côté d'une route à grande circulation, on fait plus attention au trafic. Ben là c'est pareil, on était baigné dedans, on l'écoutait pas. Donc ça c'était l'histoire de Pythagore. Alors maintenant c'est tout à fait différent, puisqu'on sait que c'est le vide entre les étoiles et nous, donc on ne peut pas avoir de transport d'ondes sonores. Donc on sait que les étoiles ont des vibrations musicales parce que on voit, c'est pas de la vision directe, c'est évidemment avec des instruments et des instruments très perfectionnés, mais on peut détecter que les étoiles ont des vibrations de surface. Et vous savez, je compare ça pour aller très rapidement, je compare ça à une membrane de tambour. Vous imaginez quelqu'un qui est sourd, complètement sourd, mais qui veut étudier les sons des tambours. Il peut regarder la membrane, visualiser la membrane, il peut même, avec des instruments appropriés, savoir quelles sont les vibrations de la membrane, le décomposer dans toutes ses harmoniques, savoir quand ça joue pas, et pourtant il n'entend rien, il est sourd. Eh bien, c'est un petit peu ça que font les astronomes. Ils reçoivent la lumière des étoiles, ils savent analyser la lumière des étoiles, et ils en ont déduit que... c'est sûr, hein, quand je dis que c'est sûr, c'est parce qu'il y a plusieurs observations qui se recoupent, hein, pour dire que c'est sûr. On observe on a des courbes, si vous voulez, hein, des courbes de vibrations. Et ces courbes de vibrations correspondent à des ondes sonores très, 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 très graves. Beaucoup trop grave pour l'oreille humaine, ce qui est normal, parce que plus un instrument est grand, plus il joue grave. Hein. Alors les étoiles, c'est énorme, quoi. Et donc voilà, donc ce sont des sons qu'on n'entend pas, mais qu'on détecte par la lumière.
Par la lumière. Alors vous avez cherché, par l'intermédiaire de cet instrument électroacoustique qui date du début des années 20, le thérémine, à nous faire entendre, à nous, avec notre petit spectre auditif d'humain, à quoi peut ressembler un son d'étoile.
Thank you.
vient d'entendre 12 de tons. À quoi ils correspondent ?
Voilà, on vient d'entendre ce qui correspond au son de 12 étoiles. Donc 12 étoiles que j'ai choisies parmi un très grand nombre d'étoiles. Pourquoi 12 ? Parce que c'est un nombre en musique particulier. Et il faut bien, bon, une chose à dire, c'est que vous avez entendu que ce sont des fréquences très différentes. Donc je les ai choisies aussi pour que ça fasse un ambitus, que ça permette de faire de la musique à partir de là. Et en fait, il faut bien penser que les sons des étoiles n'entrent pas dans les tons, c'est intratonal, c'est-à-dire que ça n'entre pas dans les tons de la gamme classique, parce que la gamme classique, c'est une gamme à partir des vibrations des cordes. Et là, on est dans les vibrations des sphères. Donc, pour pouvoir reproduire ce son des étoiles, qu'on observe, j'insiste, qu'on observe d'une manière très précise, hein, on l'observe par la lumière, mais c'est extrêmement précis par les instruments. C'est d'ailleurs, petite parenthèse, très utilisé par les astronomes qui, pour mieux comprendre l'intérieur des étoiles grâce à leurs vibrations, hein, c'était la découverte des vibrations des étoiles, ça a ouvert un nouveau champ très important scientifique de l'astronomie. Mais donc c'est intratonal. Donc, pour arriver à le reproduire, la première chose, c'est de le synthétiser. Donc, j'ai demandé à un ami compositeur, qui est Claude Samuel Lévin, il y a déjà pas mal d'années, qui est à la fois compositeur et qui est très doué pour la musique électronique, pour le synthétiser justement des sons à l'ordinateur, de synthétiser le son de 12 étoiles. Donc il a fait une musique que je crois on va entendre tout à l'heure en partie grâce à ça. Et en même temps, Claude Samuel Lévin est un spécialiste de cet instrument qu'on appelle le thérémine. C'est un instrument qui vient d'un monsieur qui s'appelait Thérémine, russe au début du siècle, dont on joue dans l'espace. C'est-à-dire que vous avez un système qui est électronique à l'intérieur, vous avez deux antennes et vous jouez en bougeant les mains dans l'espace. Donc ça ouvre des tas de possibilités. Évidemment, il faut avoir une excellente oreille parce qu'on ne joue qu'à l'oreille, on n'a aucun repère.
D'où l'aide de votre oreille absolue dont vous nous parlez un peu plus tôt.
Ça m'aide pour ça, oui. Mais alors moi, je joue pas bien. Tandis que Claude Samuel Lévin, ouais, vraiment, il a donné des concerts avec Thérémine. Et là, il joue avec cet instrument. Alors, vraiment les sons des étoiles, c'est pas synthétisé, c'est à l'oreille le son des étoiles.
Alors on va juste réentendre la note qui correspond à transposer de combien d'octaves ?
Ça va être 18 là.
De 18 octaves, le son du soleil. Donc un son qui correspond à peu près pour notre diapason
correspond
440 au sol dièse.
Voilà, ça correspond au sol dièse dans le diapason actuel, mais c'est vrai que dans le diapason baroque, ça correspond au la. c'est intéressant que le soleil corresponde au la, mais maintenant de dire aussi que le soleil correspond à un sol, c'est pas mal aussi, le sol dièse.
Thank you.
ce que nous venons d'entendre, Sylvie Vauclair. Je parle sous votre contrôle. C'est une composition de Claude Samuel Levine qui a travaillé avec vous à partir d'éléments sonores que nous arrivons à percevoir. Quels éléments a-t-il à la base, à part ce sol dièse ?
C'est ça. Donc il a plus que des notes. Il a toutes les harmoniques observées. Hein, ça ne veut pas dire toutes celles qui existent, mais toutes les harmoniques observées à l'époque où je lui ai donné de 12 étoiles. Donc il a les sons principaux des étoiles et leurs harmoniques, et il a synthétisé ça avec son logiciel, l'ordinateur, et il a introduit ça comme des instruments de musique dans une composition orchestrale.
Ouais. Alors nous allons glisser des vibrations en sol dièse du soleil vers le clair flambeau du monde tel que Rameau l'avait mis en musique dans les Indes galantes. C'est la scène d'adoration du soleil par les Incas du Pérou. Et la tonalité d'origine, si j'en crois la partition, est celle de La majeur, mais avec le diapason à 440 Hz.
Donc
c'est peut-être votre diapason pour vérifier, ça sonne comme une tonalité du soleil.
La terre et l'aube rassemblent tes bienfaits, clair flambeau du monde. L'air, la terre et l'aube te doivent leurs apprêts.
C'est un extrait des Indes galantes, vous avez reconnu Clair flambeau du monde. C'est un enregistrement des Arts florissants dirigé par William Christie. Quelle drôle de coïncidence que cette adoration du soleil par les Incas du Pérou, auquel vous vous êtes intéressé aussi un petit peu.
Oui, parce que je trouve c'était chez ces Indiens, c'était tellement important pour eux l'adoration du ciel, mais ils pensaient même qu'ils faisaient du bien au monde entier avec ça, pas seulement à eux-mêmes, quoi. C'est passionnant ça.
Alors expliquez-nous aussi un petit peu, on parlait de diapason un tout petit peu plus tôt, et il y a donc une infinité de sons, si on ouvre le spectre, qui est naturel en fait, cette infinité-là, un peu comme l'espace.
Il y a une infinité de plusieurs manières. Il y a quelque chose dont je parle dans le livre qui est la ronde des quintes. Les quintes, vous savez, c'est un intervalle de base fondamental qui vient de l'étude des cordes, hein, de la division des cordes des cordes, j'ai dit bien des cordes vibrantes, pas des sphères ni des membranes, mais vraiment des cordes. Et alors, si on construit la gamme comme l'avait fait Pythagore à partir des quintes et des quintes successives, si on part d'un do, on arrive finalement, après beaucoup de quintes, quinte ou quarte d'ailleurs, on fait l'un ou l'autre, on arrive à un si dièse qui n'est pas tout à fait un do. La différence entre les deux, c'est le coma pythagoricien. Et en fait, on n'arrive pas à reboucler. Ça continue, quoi. C'est un peu comme une spirale. Et j'aime bien faire le parallèle avec aussi l'évolution des connaissances, qui part aussi, qui va toujours aussi vers l'infini.
Thank you.
Le Magnificat d'Arvo Pärt, enregistré par l'ensemble Les Métaboles, dirigé par Léo Varinsky. Voilà une composition d'Arvo Pärt qui joue sur ce tout petit intervalle qui est la seconde et dans laquelle on trouve une infinité de sons, si je vous suis bien.
Oui, c'est vraiment, on entend chaque accord, chaque déplacement tellement subtil, lent, ce qui permet de vraiment vibrer en même temps. Et je trouve ça absolument fabuleux, cette recherche sur les sons. C'est pas comme on fait souvent de la composition très compliquée. Là, c'est minimaliste, c'est mystique. Et ça fait vibrer.
Et c'est vrai que ça nous ouvre vers le ciel un peu, cette composition, parce qu'il y a quelque chose de spatial.
Il y a quelque chose de spatial. Bon, pour lui, je pense que c'est plutôt mystique. Mais c'est vrai qu'on se sent transporté.
Oui.
On se sent transporté vers le ciel, vers l'espace, oui. Moi je trouve.
En conclusion, vous avez aussi amené avec vous une autre musique d'un compositeur contemporain qui s'appelle Thierry Machuel et qui a fait un travail étonnant.
Thierry Machuel, oui, il compose surtout pour la voix, pour des chœurs, et il est très engagé. Donc très engagé, il a composé des œuvres par rapport aux prisons.
C'est ça, en partant de paroles de détenus.
En partant de paroles de détenus et aussi de paroles de mères de détenus.
À la ville Clairvaux, oui.
Oui, c'est ça. Et il a à la fois, bon, il a une composition particulière, Parole contre l'oubli.
Qu'on va entendre dans un instant, oui.
Et puis il a aussi des opéras. Et il a une trilogie sur justement les paroles de prisonniers, de les mamans des prisonniers, les victimes. Et il a aussi un opéra, bon, je vais très rapidement, que j'ai trouvé extraordinaire. J'ai eu l'occasion d'aller l'écouter. Et je crois que c'était peut-être sa création, je ne sais pas, qui s'appelle Le Duplicateur. Ça, c'est autre chose, mais c'est absolument extraordinaire. Je trouve que ça mérite d'être connu. Vraiment, c'est très par rapport à l'être humain. Il est très proche de l'être humain, très proche de l'évolution, très proche de toute cette sensibilité humaine.
On entend votre intérêt pour la voix depuis le début de cette émission. Est-ce que vous diriez que le rapprochement entre une voix et une étoile est pertinent ?
Nous sommes un volume, comme une étoile, même si on a soi-disant des cordes vibrantes. En fait, ce ne sont pas des cordes, hein, ce sont des sortes de membranes, ben un peu complexes hein, quand même. Et ce qui fait le timbre d'une voix, c'est tout le travail de toute une vie. Hein, c'est la cavité vocale. Et oui, on peut dire qu'on fait vibrer l'intérieur de son corps.
En tant que poussière d'étoile.
En tant que poussière d'étoile, oui, en relation avec le cosmos. Oui.
Oh.
Paroles contre l'oubli, c'est une composition de Thierry Mashrell, enregistrée par les Cris de Paris, le chœur Les Cris de Paris, dirigé par Geoffroy Jourdain. Nous arrivons au terme de cette émission. Un grand merci, Sylvie Vauclair, d'être venue parler de votre dernier livre, La Nouvelle Symphonie des Étoiles, paru chez Odile Jacob. Un grand merci à Emmanuel Morse-Duncan, à la prise de son Marie Grou, à la réalisation Hortense Leblouc et Marie Ferdinand pour la préparation et la mise en ligne. Nous avons enregistrer cette émission en buvant du thé des étoiles et j'ai trouvé ça très joli. Un très bon dimanche à vous, Sylvie Vauclair. Un très bon dimanche à vous qui nous écoutez et à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.